La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Kaotar Archi est déjà connu, reconnu pour son travail d'écrivain. Elle a publié 3 romans, les 2 derniers publiés aux éditions Actes Sud. Mais Kaotar Archi est aussi, c'est moins su, sociologue, chercheuse attachée au laboratoire Serlis à Paris-Descartes. Et là où les choses se compliquent, c'est qu'elle a eu le courage de prendre comme sociologue la littérature, qui plus est la littérature contemporaine, qui plus est la littérature contemporaine de langue française et d'auteurs algériens, comme objet. Dans « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne », un essai passionnant dont le titre est emprunté des propos de Jacques Derrida et qui paraît en cette rentrée chez Pauvert, elle revient sur la trajectoire de reconnaissance de 5 écrivains algériens. D'une part, Kateb Yassine, Assia Djebbar et Rachid Boudjedra. D'autre part, et l'on verra la différence, toute la différence, qui n'est pas que de génération, j'espère, au cours de cette émission, Kamel Daoud et Boualem Sansal. Kaotar Archi, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez donc ce livre, « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne », chez Pauvert. Dans ce livre, vous explorez les trajectoires, le franchissement d'une frontière, au fond, à la nage, ajoute votre préfacier, Jean-Louis Fébaini, la Méditerranée à la nage, franchissement d'une frontière géographique, mais aussi une frontière symbolique très très forte, pour des écrivains algériens qui ont commencé à écrire sur l'autre rive de la Méditerranée et qui sont venus chercher, à Paris en particulier, une forme de reconnaissance littéraire. Alors vous insistez sur un certain nombre de récurrences qu'on observe dans tous les cas de figure, dans ces 5 trajectoires, mais vous insistez aussi, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de votre étude, sur les différences qui frappent dès lors qu'on se penche un petit peu plus précisément sur ces mêmes trajectoires. Je commence par une question très simple. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à ces trajectoires de reconnaissance, à ce processus de légitimation littéraire? Est-ce que cette question que vous vous êtes posée a surgi en parallèle de la décision, d'ailleurs était-ce une décision de vous mettre vous-même à écrire de la littérature, Kaotar Archi?
Les choses ont été plus éparpillées dans le temps. Je sais que mon désir d'écrire en littérature date de mes 18 ans, 19 ans. Le processus de recherche, du fait des études qu'il est question de suivre, a été un peu plus tardif. Mais disons que de manière plus globale, si je devais un peu essayer de décrire une forme de ligne commune, ce serait sûrement une ligne qui est marquée par la problématique de la reconnaissance, qui est une question pour moi très importante, très vaste. On peut l'aborder à partir de multiples disciplines. Disons que la mienne a été une discipline particulière, la sociologie. Et une manière de poser cette question a été de m'intéresser à une reconnaissance d'ordre symbolique, qui est la reconnaissance qui a cours dans les mondes des arts.
Alors, vous posez la question de la reconnaissance, qui est une question centrale de la sociologie de la culture et des arts, mais vous la posez à propos d'un contexte, une situation particulière, puisqu'il s'agit de la reconnaissance de gens pour qui, d'une certaine façon, c'est encore plus difficile à obtenir que pour d'autres, parce qu'ils sont tout simplement à l'écart du centre. De ce point de vue-là, votre travail participe, je pense, d'un courant intéressant aujourd'hui. Je voulais citer l'article de Claire Ducournau qui a paru dans le dernier numéro ou l'avant-dernier numéro d'Actes de la recherche en sciences sociales, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un classique africain ?» sur les conditions d'accès à la reconnaissance des écrivains issus de l'Afrique, cette fois subsaharienne, et qui est un article passionnant aussi, qui rejoint complètement votre perspective. Vous avez choisi de travailler sur 5 écrivains algériens. Et vous commencez votre livre par une mise en contexte, au fond, revenant sur le moment de la colonisation, le moment de la décolonisation, avec le rôle central des guerres mondiales dans ces moments-là, la question de la difficile autonomisation d'un espace littéraire local, algérien. algérien. Et finalement, la première génération des écrivains à laquelle vous vous intéressez, Kateb Yassine en est le premier, sont des gens qui sont pris dans cette histoire, dans des moments très très particuliers, parfois dans des formes d'ambivalence entre le désir de s'affranchir de la France métropolitaine et le besoin de reconnaissance par cette même France métropolitaine, ou plutôt, je dirais, par une toute petite portion de cette France métropolitaine qui possède le pouvoir, non pas politique, mais littéraire.
Oui, c'est exactement ça. La première partie est assez importante, puisqu'elle permet, entre guillemets, de poser la question de la langue. Dans une perspective, romantique, on a le sentiment que la langue est toujours là, qu'elle est naturelle, que certaines langues sont dotées d'une certaine beauté, que d'autres sont plus ardues ou plus difficiles d'accès. Il se trouve que la langue française et son enseignement et la fonction qu'on lui a attribuée dans le cadre de l'entreprise coloniale a été véritablement déterminant. Autrement dit, il a été question de déculturer pour apporter une certaine forme de civilisation. Et cette forme de déculturation et cette forme de mouvement de volonté de civiliser, c'est très fortement fondé sur l'apport de la langue française, ce qui a été pensé comme un apport à l'époque par les gens de gauche, Jules Ferry, etc. Donc on est effectivement sur un mouvement central, et à la domination linguistique que ces écrivains vont subir, et donc attaché en conséquence une domination littéraire. Et c'est effectivement toute la question que se pose Kateb Yassine de manière très évidente et qui va se poursuivre pour tous les autres écrivains des autres générations, selon des modalités distinctes. Comment dominer une langue qui est dominante? Comment m'approprier un langage, un ensemble de métaphores, une culture qui sont déjà préexistants? Et tout ce travail-là d'appropriation, de reconquête, de redéfinition trouve en le geste littéraire une exacerbation totale. Et évidemment, on est là typiquement sur des questions fondamentalement politiques.
D'où ce titre, « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne », comme je le disais, emprunté à un autre écrivain algérien, on peut le présenter comme ça, Jacques Derrida. Il n'y a pas que la question de la langue, il y a aussi la question de la structure du pouvoir éditorial. Et cette génération d'écrivains, la première à laquelle vous vous intéressez, va se trouver finalement surgir à un moment de reconfiguration de l'édition française, où un certain nombre d'acteurs nouveaux, que ce soit, et différents, que ce soit les éditions du Seuil qui confient à Robles une collection, que ce soit Jacques Julliard et avec lui son très jeune bras droit à l'époque, Christian Bourgois, que ce soit les éditions de Minuit. À chaque fois, il y aura des structures éditoriales naissantes prêtes à accueillir ces textes un peu différents et un intérêt partagé, en quelque sorte, à faire émerger une autre littérature.
Oui, le mouvement de la décolonisation a très profondément structuré le champ intellectuel français et le champ éditorial. Donc évidemment, le positionnement de personnalités comme Paul Flamand ou Bardet, ou vous parlez de Julliard, on peut aussi penser aux éditions de Minuit, on peut penser aussi à Maspero.
J'ai oublié Maurice Nadeau aussi, les lettres nouvelles.
Évidemment, tous, à un moment donné, ont eu un positionnement personnel, politique, militant vis-à-vis de cette question-là. Et ce positionnement-là a très fortement ressurgi sur leur ligne éditoriale. D'une manière peut-être aussi plus stratégique, c'était pour des maisons d'édition naissantes, une manière aussi de s'appuyer sur un corpus particulier d'une littérature étrangère, mais de langue française. Tout ce qui touche donc à la question des coûts de traduction, ici, est mis entre parenthèses, et on est donc face à des possibilités de constitution d'un catalogue, d'une identité éditoriale, qui va permettre aux éditions du Seuil, à Minuit, à Maspero, à Julliard, etc., de se déployer. On est donc à la fois sur des logiques instrumentales, au sens où elles touchent à la construction même d'une maison d'édition en France, face à des concurrents qui sont eux aussi très forts et très bien positionnés, mais aussi face à des engagements plus intimes, plus viscéraux. Et évidemment, la guerre d'Algérie va cristalliser toutes ces questions-là. Et ce courant d'écrivains venant d'Afrique du Nord va être soutenu. Et ça leur permet d'accéder très rapidement à une forme d'espace qui leur est dédié. Et donc évidemment, ça facilite les accès, les mises en relation, les publications, etc. Mais ce n'est finalement qu'une forme de déplacement de la problématique. Si le livre existe, c'est une bonne chose. Reste encore à savoir comment il est reçu, comment il est interprété et quel devenir lui est-il réservé.
Une place un peu à part et certainement très très différente de celle que, pour des raisons de système de colonisation, de mode de décolonisation aussi, le monde éditorial britannique va réserver à ce qu'on appelait ou ce qu'on a appelé la génération l'Empire contre-attaque et tous ces auteurs venus des anciennes colonies, que ce soit indiennes, pakistanaises ou du Nigeria par exemple. Donc vous vous intéressez à cette première génération, on peut dire, pour aller très vite, ces trois auteurs, Kateb, Boujedra et Djebar, mais, et c'est tout l'enjeu, je dirais, contemporain de votre réflexion, vous faites contraster au fond ce premier groupe de trois écrivains avec un deuxième groupe d'écrivains apparu beaucoup plus récemment, Kamel Daoud, dont on a beaucoup parlé l'an dernier, et Bolem Sansal, déjà très reconnu, dont les œuvres ont été réunies dans un volume de la collection Quarto de Gallimard, forme de reconnaissance importante. Et vous vous arrêtez sur ces deux derniers auteurs pour montrer à quel point la reconnaissance ne passe pas exactement par les mêmes chemins. Et peut-être, moi, ce qui m'a frappé, à quel point aussi ils n'ont, au fond, pas eu besoin de faire preuve de subversion littéraire pour parvenir à cette reconnaissance. Et qu'au contraire même, c'est probablement une capacité chez eux à se couler dans le moule, on peut dire, à produire des formes de mainstream qui leur apportent cette reconnaissance littéraire.
Oui, effectivement, ce qui est vraiment très intéressant, dès lors qu'on s'intéresse à ce premier groupe constitué par Kateb Yassine, Nassia Djebar et Rachid Boujedra, et un autre groupe plus proche de nous, plus contemporain, c'est effectivement la manière dont les premiers ont peut-être incarné une certaine forme de révolution littéraire. Sur le plan esthétique, il a vraiment été question pour eux de faire advenir quelque chose, de faire advenir une langue, d'être dans une forme de rapport conflictuel à la langue française et donc dans une forme de rapport frontal à ce que signifie être un écrivain algérien de langue française dans cette France-là, la France des années 60-70. Et l'autre groupe, constitué de Boualem Sansal et de Kamel Daoud, que je retiens pour une raison très simple, parce que ce sont les plus visibles, ce sont ceux qui occupent aujourd'hui dans le champ littéraire français une place des plus importantes, sont évidemment dans une autre situation. Si les premiers ont pu très vite se positionner comme des sortes de frondeurs, parce qu'ils étaient en position de se présenter comme les fondateurs de la littérature algérienne de langue française et moderne, les deux autres sont dans une situation beaucoup plus ambiguë. Dans un premier temps, évidemment, la France n'est plus un pays colonial et l'Algérie est un pays indépendant. C'est une distinction historique des plus importantes et qui rejaillit véritablement sur leur rapport à la langue française, sur leur rapport respectif à l'Algérie et sur leur rapport à la France.
D'abord, des auteurs qui ont grandi dans un contexte différent, après à cheval ou après l'indépendance, dans un contexte d'arabisation et de marginalisation de l'enseignement en langue française, dans un contexte aussi où, en dépit de l'indépendance, on peine à voir émerger un système éditorial autonome en Algérie qui aurait permis à des auteurs de faire, au moins dans un premier temps, l'impasse sur la reconnaissance par le centre, la capitale des lettres que continue d'être Paris pour tous ceux qui écrivent en français. Mais néanmoins, il y a d'autres différences. Je voudrais que on s'arrête un instant, Kaoutar Archi, sur le cas Kamel Daoud, dont on a beaucoup entendu parler l'an dernier. Son roman, d'abord, a fait l'objet d'une réception médiatique considérable. D'abord parce qu'il touchait à un symbole sacré de la littérature française, L'étranger d'Albert Camus, qui est probablement l'un des livres les plus lus et les plus vendus au monde de la littérature française du XXe siècle. Et ensuite, du fait de son intervention dans différents événements d'actualité, ses commentaires en particulier de ce qui s'est passé, on le sait, dans la nuit du 31 décembre, 1er janvier à Cologne. Alors ce qui est intéressant, c'est de noter, parce que peu de gens finalement, je pense, le savent, que la première édition du livre de Kamel Daoud, en dépit de la faiblesse de ce système algérien dont je parlais, a eu lieu à Alger. Le livre a d'abord existé pour le marché algérien. Et c'est à la fois le même livre, mais c'est pas tout à fait le même livre.
Oui, ça fait partie des plaisirs de la recherche que de trouver des éléments qui a priori sont anecdotiques, mais qui, dès lors qu'on les creuse un peu, deviennent très significatifs et délivrent quelque chose d'un certain enjeu politique. Et effectivement, il est intéressant de constater que la version que les éditions Barzac vont publier de Meursault contre enquête, donc à Alger en 2013, est écrite en français. Donc là, on est sur quelque chose de typiquement francophone. Mais ce livre-là est porté, à mon sens, et c'est ce que je démontre dans l'ouvrage, par une certaine intention, qui est celle de Kamel Daoud, qui a été d'ailleurs manifestée très tôt, dès 2010, dès lors qu'il publie dans le quotidien d'Oran, puis ensuite Le Monde reprend ce texte-là, une sorte de chronique, mi-journalistique, mi-littéraire, qui s'intitule « L'arabe tué deux fois ». Et dans cette chronique-là, qui va par la suite devenir le morceau contre-enquête que les Algériens ont pu lire, son positionnement est politique, au sens où il s'inscrit, de manière très, très affirmative, dans une forme de logique qu'on pourrait nommer post-coloniale. C'est-à-dire qu'il est dans une forme de quête ou de volonté de démontrer, d'une part, toute la complexité de la pensée d'Albert Camus, d'essayer de débusquer les ambivalences qui étaient celles de cet écrivain, mais aussi, finalement, d'opposer une sorte de droit de réponse littéraire. Et ça, en littérature, et vous aviez parlé auparavant, par exemple, du mouvement des écrivains contre-attaque dans les pays anglo-saxons, il s'inscrit dans cette vague-là. Et il est donc, effectivement, dans une perspective de vouloir nommer l'arabe auquel Camus n'a pas attribué de nom. Et cette version-là, qui existe à Alger et qui est publiée par les éditions Barzac, elle est par exemple typique et fortement remarquable dans la contraction de ce qu'il va nommer être Albert Meursault. Donc une forme de contraction entre Albert Camus et Meursault, forme de confusion ou d'ambiguïté entre le personnage du livre, Meursault, et l'auteur vivant, l'homme, Albert Camus. Comme si quelque part, on instiguait une forme de doute sur l'identité, qu'elle soit métaphorique ou réelle, du véritable meurtrier de l'arabe.
Et ce nom disparaît dans la version publiée en France.
Et ce nom va disparaître dans la version française. Et dans la version française, disons, tout rentre dans l'ordre. Chaque chose retrouve sa place. Albert Camus demeure Albert Camus, l'auteur. Meursault demeure Meursault, le personnage. Et on assiste donc à une dépolitisation du livre. C'est le mot qui est employé dans mon essai, au sens où la dimension postcoloniale, qui était selon moi une partie prenante de l'intention de Kamel Daoud, disparaît ou en tout cas est très fortement atténué.
Ça passe par d'autres éléments. Vous avez
aussi pris
un exemple, ça passe par la couverture, ça passe beaucoup, surtout, par l'adaptation progressive du discours de Kamel Daoud à la réception de son œuvre. Quand on est sociologue, on sait bien que la littérature, ça ne s'arrête pas au texte.
Non.
Et que la littérature, c'est un monde, un univers qui comprend aussi évidemment les lecteurs, qui comprend les critiques,
sûr,
les éditeurs, ceux qui choisissent la couverture,
bien
etc.
Sûr.
Et que du coup, c'est tout ça qu'il faut regarder et qu'on voit bien, parce qu'il ne s'agit pas d'un jugement moral que vous portez sur les changements, la mutation, la métamorphose de Kamel Daoud, c'est plutôt une observation de ses stratégies d'adaptation pour parvenir à des formes de reconnaissance littéraire qui le conduisent à changer de discours en France.
On est véritablement dans un système de domination. Simplement, quand on dit cela, on ne dit pas grand-chose, au sens où tous ces écrivains-là, et Kamel Daoud en est un exemple éminent, et aussi, du coup, dans une stratégie de résistance. Et penser la question de la domination et penser la question de la résistance, c'est-à-dire comment des écrivains font à un moment donné pour obtenir ce qui les anime, est une question essentielle. Ils ne sont pas totalement déterminés et en même temps, ils ne sont pas non plus totalement libres. Donc effectivement, Kamel Daoud, ce qui est intéressant, c'est de remarquer selon quelle forme de progressivité il va s'adapter. Et ce terme-là est à mon sens un terme intéressant puisqu'il signale quelque chose d'une forme de stratégie. Toute la première partie qui lui est consacrée, dès lors qu'il est question de reconstruire cette trajectoire biographique, est déjà fondée sur des formes de conversion qui sont intéressantes. Et en cela, il dit quelque chose, et c'est là où effectivement on est très loin d'une quelconque forme de jugement moral, il dit quelque chose, il témoigne de quelque chose, de l'épreuve littéraire qui est la sienne. Autrement dit, de l'adversité structurelle produite par le champ littéraire français, dès lors que l'on est un écrivain étranger de langue française en France, désireux d'être reconnu par ce pays-là, par cette nation-là et par ses institutions. Donc Kamel Daoud va progressivement tenter de faire correspondre son discours à l'horizon d'attente qui lui semble être celui qu'on lui propose. Et on passe de manière très forte et en un laps de temps assez restreint, en une première intention plutôt politique, plutôt inscrite dans un mouvement d'écriture postcoloniale, plutôt dans des volontés de revendication, mais qui mettent aussi à jour des formes de complexité littéraire très importantes, à autre chose que la presse française a très largement souligné, et c'est finalement ce qui l'a intéressé dans ce texte-là, c'est la question de l'hommage. Et on passe là de quelque chose qui instaure un rapport de force, qui instaure donc un doute, un dialogue, aussi serré soit-il, à quelque chose de beaucoup plus lissé, de beaucoup plus honorifique, de beaucoup plus doux, qui est cette idée d'un hommage, selon lequel Kamel Daoud rendrait hommage à Albert Camus. C'est tout à fait juste, ça peut tout à fait faire partie de l'intention de Kamel Daoud, mais pas seulement. Son projet politique, à mon sens, par la littérature, était plus complexe que cela.
Pour organiser la réception de Kamel Daoud et les discours de réception, vous citez en particulier celui de Régis Debray, il faut que Kamel Daoud soit recevable d'une certaine façon et qu'on puisse le consacrer. Et donc c'est ces ajustements perpétuels qui vont prendre une forme un peu aiguë au moment de cette polémique après ce qui s'est passé et qu'on mettra du temps à véritablement comprendre d'un point de vue factuel à Cologne. Et c'est probablement ces changements, ces transformations de l'auteur Kamel Daoud, qui nous font mieux comprendre aujourd'hui le texte de celui qui, journaliste américain, s'est présenté comme l'un de ses amis et lui a écrit dans le New York Times qui ne le reconnaissait plus, qui ne comprenait pas comment il avait pu écrire ce texte sur Cologne alors qu'ils avaient eu l'occasion d'échanger dans les années antérieures.
Bien sûr, encore une fois, par rapport à Kamel Daoud, il est vraiment important de comprendre que ce qui est intéressant, c'est la manière dont, en réagissant, il va rendre visible un système de contradictions, d'injonctions contradictoires qui, la plupart du temps, nous sont totalement inaccessibles. Et sa situation même est définie, et c'est le cas de tous les écrivains originaires des périphéries et qui essaient, comme je disais, de rejoindre à la nage l'institution littéraire française, ils sont dans une situation profonde de ce que j'ai appelé d'apatridie littéraire. Ils n'ont pas véritablement de patrie littéraire. D'ailleurs, un grand nombre d'entre eux vont plus ou moins tenter de rétablir une forme de géographie en disant « ma patrie, c'est la langue ». C'est très beau, c'est une formule très, très romantique qu'on peut tout à fait comprendre. Sauf que, structurellement, politiquement, socialement parlant, ça ne se passe pas comme ça. Et une langue est associée à une nation, et qui dissocie nation et langue entre dans des méandres et dans des phénomènes labyrinthiques particulièrement difficiles et violents et socialement significatifs. Kamel Daoud va donc, selon moi, tenter de s'adapter avec une intelligence certaine, et c'est cela qui est intéressant, c'est d'essayer de voir comment finalement il cherche des formes pour rétablir un équilibre à quelque chose qui est en sa défaveur, à quelque chose qui n'est pas conçu pour cette catégorie-là d'écrivains, d'écrivains non français, qui espèrent devenir un grand écrivain français.
Il y a d'autres formes d'apatridie littéraire, en vous entendant évoquer cette expression, Kaoutar Archi, je pensais à ce qu'a proposé un très grand écrivain, Édouard Glissant, la formule du tout monde, qui est une autre manière d'entretenir un rapport à la langue, aux langues et au croisement et au métissage des langues. Il y a un autre très frappant qui permet de réunir, au fond, ces deux écrivains de la deuxième génération qui vous intéressent dans votre livre, donc Kamel Daoud, mais aussi Boualem Sansal. C'est en cela, ces choix contrastent avec les inventions littéraires de la première génération. C'est un rapport consacré, je dirais, à l'histoire littéraire. Camus, Alice Kaplan consacre un livre qui paraît cet automne aussi, justement, comme quelque chose d'un peu sacré dans la littérature française. Et puis, dans le cas de Sansal, Orwell, par exemple. Il y a là quelque chose de plus direct dans la volonté de s'inscrire, je dirais, dans l'histoire littéraire, de plus...
Oui, en tant que dominé au sein du champ littéraire français, même si ce sont des dominés qui occupent par rapport à d'autres, des positions qui sont malgré tout privilégiées, ils sont typiquement ce qu'on appelle en sociologie des transfuges littéraires, au sens où ils ont totalement intériorisé l'ordre symbolique. Ils ont intériorisé les normes qui participe à structurer la reconnaissance, la consécration. Donc il est vrai que l'attachement de Kamel Daoud à Camus et l'attachement de Boualem Sansal à George Orwell dit encore quelque chose de leur stratégie littéraire, dit encore quelque chose de la manière dont ils espèrent conquérir cet or littéraire qui est la valeur de leurs travaux. Et cette stratégie, elle est évidemment plutôt du côté d'une forme de non-rébellion ou, autrement dit, d'une forme de mimétisme. On est sur quelque chose de cet ordre-là. Il s'agit véritablement de s'inscrire dans des sillons qui ont déjà été creusés plutôt que de faire le pari d'un sillon inédit. Mais encore une fois, la capacité et la possibilité de creuser des sillons inédits sont aussi des formes de luxe littéraire dont tout le monde ne peut pas se prévaloir.
Comment vous trouvez-vous, Kaoutar Archi, à l'issue de cette enquête qui vous a fait mettre à jour les stratégies de reconnaissance de ces écrivains algériens, comment vous trouvez-vous, romancière, écrivaine, face à cette situation que vous avez objectivé certainement beaucoup plus que 99,9% des écrivains qui entendent produire des romans aujourd'hui. Rares sont ceux dans ce milieu qui ont une connaissance de ce type-là du milieu. C'est d'ailleurs frappant parce que dans le monde des arts plastiques, les choses sont sensiblement différentes. Alors pour un sociologue de fait, j'ai envie de dire, qui s'appelle Michel Houellebecq, il y en a beaucoup qui laissent le voile d'ignorance recouvrir l'univers pour garder des postures romantiques. Vous, vous ne pouvez plus, ce n'est pas possible.
Moi, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je suis allée trop loin. C'est quelque chose que j'essaie d'exprimer dans les dernières lignes de l'introduction en disant que nous gagnons tous aussi à accepter d'aller vers peut-être plus de lucidité et d'essayer de voir les choses comme elles sont. C'est l'une des phrases de Pierre Bourdieu qui ouvre l'ouvrage. Et je crois que si la littérature et si la création permettent beaucoup de choses, la science et les sciences sociales n'en permettent pas moins. Et disons que j'essaie d'avancer en marchant sur ces deux jambes. Une jambe qui est certainement encore illusionnée, et une autre jambe qui sait qu'il y a un au-delà de l'illusion.
Merci Kaoutar Archi. Je rappelle le titre de votre livre, Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne. Il paraît aux éditions Pauvert. Vous retrouvez les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées sur le site de France Culture. Vous pouvez également réécouter l'émission, aussi vous abonner au podcast. Toutes les informations sur les programmes de La Suite dans les idées, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de La Suite dans les idées à laquelle vous pouvez vous inscrire. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Catherine Donnet à la technique, Pierre Monteil à la réalisation, Jean-Christophe Francis. Et dans quelques instants, la conversation scientifique sur l'antenne de France Culture avec Étienne Klein.